Amen. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir pour moi de revenir à l'église de Saint-Maur, donc merci encore de m'inviter et de continuer à me mettre dans la liste, ça fait plaisir. Je sais que ça va, vous n'êtes pas trop dégoûtés, donc c'est super. Donc je suis content d'être avec ma belle-mère, donc Malala au fond, avec moi. Et en fait, Priscilla est avec les deux filles qui se sont endormies dans la voiture, on n'a pas voulu les réveiller. Donc elles sont à côté, donc elles viendront, je pense, à la fin du culte. En tout cas, je suis vraiment content de m'intégrer dans cette méditation du livre d'Éphésiens, cette série de prédications à l'église de la nuit aussi. C'est le groupe de dames qui est dans Éphésiens. Elles sont au chapitre, ils arrivent sur chapitre 3 actuellement. Mais voilà, c'est vraiment une série vraiment édifiante où le plan de Dieu est présenté avec beauté, avec grandeur, avec magnificence, avec majesté. Et un de mes désirs, c'est vraiment qu'on puisse s'émerveiller de ce plan ce matin, qu'on puisse se dire « Waouh, merci Seigneur, c'est merveilleux ce que tu fais », et qu'on puisse se dire « Mais je veux m'intégrer dedans, je veux faire partie de celles et ceux qui construisent ce plan que tu as pour l'Église, un plan d'unité. » Un plan d'unité. Et merci à l'équipe de Louange de nous avoir encore conduits, dirigés dans cette célébration de l'unité. Et c'est vrai qu'en cette époque où les tensions sont permanentes, il est bon de rappeler qu'il y a un espace que Dieu a préparé, un espace où on peut s'aimer, un espace où on peut se soutenir, un espace où on peut se guérir, s'encourager, s'édifier, porter les fardeaux les uns des autres. Parce que notre environnement ne nous encourage pas à l'unité, n'est-ce pas ? Ensuite, actuellement, avec tout ce qui se passe autour de nous, encore récemment, encore hier, il y avait tous ceux qui étaient contre le pass sanitaire. Et donc on a aujourd'hui dans la population, hein, le président a bien contribué à cela, les pro-vax et les anti-vax, les pro-pass et les anti-pass. On a ceux qui sont pour les gilets jaunes et contre les gilets jaunes. On a ceux qui sont pour Emmanuel Macron ou d'autres qui sont pour Zemmour et d'autres pour Pécresse, etc. On a celles qui sont hommes et celles qui sont femmes. Ceux qui sont hommes, pardon. Et ceux qui sont femmes. Et on voit des oppositions parfois. Où certains disent on veut plus de droits, on veut plus de respect, on veut plus de... On a aussi très récemment eu ce mouvement de Black Lives Matter. Où on voyait des tensions raciales qui se sont importées des États-Unis vers la France. Bref, notre environnement n'encourage pas à l'unité. Et très souvent, on voit ces tensions dans la société, autour de nous. Et ce qui est le plus dommageable, c'est que parfois cela intègre l'espace de l'Église même, ces tensions, ces divisions. Ce regard de l'autre avec méfiance, avec défiance, avec inquiétude, en disant « qu'est-ce qu'il va me faire celui-là » ou « celui-là, je ne me vois pas bien avec lui ». Et je vais même aller plus loin. Parfois, ces tensions, ces divisions s'intègrent dans nos familles. N'est-ce pas ? Dans les couples, entre enfants et parents. Et ce que je vous propose, c'est de, grâce à ce texte, grâce à l'étude qu'on va faire de ce texte, de marquer un coup à cela et de dire non, ce n'est pas que ça qui doit faire notre réalité. Bien au contraire, Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour nous, pour l'Église et pour le monde. Et c'est ce que je vous propose de voir à travers trois points. Le premier, c'est de voir que notre consécration de vie est une réponse à un appel divin. La deuxième, c'est de voir comment être artisan de cette unité. Et nous allons voir que le troisième point, que le premier artisan et le premier architecte de cette unité, c'est Dieu lui-même, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà ce que dit le texte. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé. Donc, vous avez eu la chance de circuler dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, où Paul présente magistralement le plan de Dieu. En lui, nous avons été élus. En Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Nous avons, avant la fondation du monde, c'est en Jésus que tout cela s'est fait. Plus encore, il nous a donné l'opportunité d'avoir la foi et d'être sauvés gratuitement. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Plus encore, de nos bonnes œuvres, c'est lui qui les prépare. Et il parle à une population qui, pour la très grande majorité, est non-juive. Et il dit, mais cette division qu'il y avait avant entre juifs et non-juifs, elle n'a plus lieu en Jésus. Vous êtes intégrés dans la maison de Dieu. Vous qui avant qui étiez loin, maintenant vous êtes prêts, vous êtes rapprochés de Dieu. Vous qui n'avez pas le droit d'accéder à Dieu, le saint qui avait choisi le peuple d'Israël, aujourd'hui vous êtes ses enfants, vous êtes de la maison de Dieu. Et avant il y avait cette division entre les juifs et les non-juifs, eh bien Jésus-Christ lui-même a donné sa vie pour qu'il y ait réconciliation. Réconciliation entre juifs et non-juifs, réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est le plan de Dieu et il nous appelle à nous réjouir de cela. Et Paul prie même qu'on puisse comprendre, qu'on puisse éveiller notre esprit, que Dieu puisse éveiller notre esprit pour comprendre la mesure de ce que Dieu a fait. Et une fois qu'il a présenté toute cette doctrine, toute cette œuvre de Dieu, tout ce plan de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous et ce à quoi il nous a appelés, il nous dit, je vous exhorte donc. Et on aime bien, nous les pasteurs, les petits mots, là, le donc, mot de liaison qui va s'appuyer sur tout ce qu'on vient de dire. Je vous exhorte donc, à cause de tout ce que vous avez entendu, à cause de tout ce qu'on a affirmé, alors je peux vous exhorter. Et ce point-là est très important dans notre marche chrétienne. Le fait de comprendre que lorsque nous sommes appelés à agir dans la marche chrétienne, puisque là il va nous dire à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, ça veut dire qu'il attend de nous des attitudes, et vous allez le voir tout au long des chapitres, qui vont impacter tout, les relations avec l'Église, les relations dans le couple, les relations dans la maisonnée, les relations avec le monde spirituel. Ça va impacter tout. Il va nous encourager, il nous exhorte, il nous encourage à agir d'une manière particulière. Mais avant de le faire, il dit ce donc. Et il est très important de mesurer que lorsque le chrétien se met en action, c'est parce qu'il croit, c'est parce qu'il comprend, c'est parce qu'il y a une œuvre que Dieu a accomplie avant. Sinon, nous tomberions dans de la moralisation. Voici une liste de choses à faire, n'oublie pas de les faire. En fait, Paul le fait très bien, il nous donne des motivations pour le faire, il nous donne une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes ancrés. Une image un petit peu que je pourrais donner, c'est ce fils en Angleterre que nous connaissons, qui est un prince, et qui a des attitudes. Et en fait, quoi qu'il arrive, on lui demande d'avoir une attitude qui est cohérente avec qui il est vraiment. Il est prince, il est de lignée royale. Et donc quand on lui demande « agis comme ci et comme ça », c'est parce qu'en fait, il l'est vraiment. Il n'est pas en train de lui dire « écoute, agis comme ci et comme ça pour paraître prince. Agis comme ci et comme ça pour que tu puisses ressembler à un prince. » Mais parce que tu es un prince, parce que tu es de lignée royale, parce que tu as le sang du roi et de la reine qui coule dans tes veines, parce que c'est ton nom que tu as reçu qui fait que tu as une certaine autorité, une certaine aura, une certaine dignité. Eh bien, je vois la même chose pour notre appel. Si on nous encourage à vivre d'une manière digne de la vocation, c'est à cause avant tout de tout ce que Dieu a fait pour nous, à cause de qui nous sommes en lui. Et il est bon et important de se rappeler de cela. Parce que parfois, si vous êtes comme moi, parfois on a du mal à pardonner, à faire le bien. Parfois même, ça demande un grand effort d'agir pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Ça demande de la discipline, ça demande de travailler son corps, travailler son cœur, travailler son esprit. Ce n'est pas toujours facile de servir Dieu à plein temps, pleinement, à 100%. Et parfois, on peut se décourager en disant « Ah, mais pourquoi ?» Et je me rappelle très bien, on faisait une série à l'église et je tombe encore sur cet appel à l'amour et à pardonner et à supporter les faiblesses des autres. On était dans Romains, et en Romains 12, Romains 13, Romains 14, Romains 15, à chaque fois, il dit « Mais supporte les faiblesses des autres, aime l'autre, etc. » Et puis à un moment, je me dis « Oh, les frères et sœurs de l'église, là, ils vont en avoir marre de toujours les appeler à pardonner, à supporter. » Mais en fait, c'est parce que c'est ce que nous sommes. C'est notre identité. c'est la réalité que Dieu a fait de nous. Et donc, rappelons-nous cela. Rappelez-vous que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Rappelez-vous que vous êtes unis en Jésus. Rappelez-vous qu'il vous a réconciliés. Rappelez-vous que son esprit agit en vous. Tous ces grands privilèges sont là, présents. Alors, on peut vous dire, avec tout ça, avec tout ce que tu as reçu, avec tout le bagage que tu as reçu, avec toutes les bénédictions, avec le plan de Dieu de réconciliation, marche d'une manière digne. D'accord ? Marche d'une manière digne de l'appel que tu as reçu en lui. Tu as tellement reçu en lui, il a tellement fait pour toi, il t'a tout donné, tu n'avais qu'à avoir la foi. Alors marche d'une manière digne. Et vous allez voir que c'est pas facile, Paul le sait, que marcher d'une manière digne, il y a du renoncement. Et lui-même, dès le départ, le précise. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, vous l'aviez vu déjà dans Éphésiens 3. Là, quand il est en train d'écrire, il est en train de payer de sa liberté le prix de servir Dieu. Il est en prison. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Je paye un prix, je paye un coût pour être ce témoin. Vous aussi, suivez ce chemin. Et je nous encourage vraiment à nous dire, oui Seigneur, vu tout ce que tu m'as donné, alors je veux m'engager de la bonne façon à servir ton nom. Je veux m'engager à 100%. Paul va reprendre un peu cette même expression dans différents moments de différentes épîtres, mais un des moments assez forts et assez parlants, c'est Romains chapitre 12, le verset 1, où il dit: je vous exhorte donc, frères, à cause des compassions de Dieu, on revoit ce donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Corps et esprit, les amis, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Voici la vocation du Seigneur qu'il nous adresse. Marchez d'une manière digne. C'est un appel à la consécration. Et vous allez voir, à travers tous les chapitres que vous allez aborder, que cette consécration concerne tous les domaines de notre vie. Répondons à cet appel, les amis. Rappelons-nous de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous avez reconnu que vous aviez besoin de lui, si vous aviez reconnu que sans lui, vous étiez perdu, que vous ne pouviez pas vous sauver de vos péchés, que vous aviez mal agi, si vous avez reconnu qu'il a payé le prix pour vous, alors rappelez-vous qu'il vous a aussi sauvé pour la louange de sa grâce, pour célébrer sa grâce, pour que votre vie soit un témoignage de son amour, pour votre attitude reflète qu'il est votre sauveur et votre Seigneur, pour que vous puissiez sortir du domaine des ténèbres, comme on l'avait vu en Éphésiens 2, et désormais être enfant de lumière. Pour que vous ne puissiez être plus ces rebelles, parce que ceux qui ne suivent pas Dieu sont appelés rebelles, et que vous puissiez être avec Dieu. Pour que vous ne soyez plus conduits par le prince de l'air, mais conduits par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors il dit, à cause de tout cela, marche d'une manière digne. Marche d'une manière digne de la vocation à laquelle tu as été appelé. Accepte, reconnais, choisis de faire de Jésus-Christ ton plein Seigneur, ton Seigneur total, complet. Et c'est un choix que nous devons faire, que je dois faire quotidiennement en fait. Je l'ai fait et je vois que parfois je peux reglisser vers chercher mon propre intérêt. J'ai besoin de renouveler ce choix. Et cet après-midi, je vous propose de refaire ce choix. Vous êtes d'accord avec moi ? De dire, Seigneur, encore aujourd'hui, je choisis de répondre à ton appel, de marcher d'une manière digne de la vocation que tu m'accordes. Et là, on pourrait se dire, oui, mais j'ai pas la force, je ne suis pas digne, comment puis-je marcher à ce niveau de dignité ? Rappelez-vous ce que vous avez vu, il nous a scellés du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? En Éphésiens 3, il parle de cette prière où il va dire, je prie que vous puissiez comprendre la puissance que Dieu met à notre disposition. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et bien cette même puissance, il la met à ta disposition pour que tu puisses marcher digne. C'est pas merveilleux, ça ? Alors, les amis, répondons à son appel. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui marquent la différence et qui glorifient Dieu par leur vie. Eh bien, répondons. Oui, Seigneur. Et je vous propose juste d'avoir ce petit instant. Merci, Seigneur, pour cet appel. Merci pour tous les dons que tu nous as accordés, toutes ces bénédictions spirituelles où nous sommes comblés en Jésus-Christ. Merci pour le pardon parfait en Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le nouveau statut de fils et de fille de Dieu. Merci pour cette nouvelle famille que tu nous donnes. Merci pour cette réconciliation. Merci pour toutes ces choses merveilleuses. Eh bien, nous répondons, je réponds, oui Seigneur, je viens à toi et je veux marcher d'une manière digne. Pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'agissons pas de cette façon digne. Mais merci parce que le pardon en Jésus est complet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à marcher d'une manière digne, moi au départ j'aurais pensé par exemple à une sainteté d'attitude. Voilà, par exemple attention à tes pensées, à pas être dans l'impureté, ou peut-être une grande piété. Et très intéressant de voir que la première chose que Paul veut développer, c'est l'unité. Marcher d'une manière digne, pour Paul, c'est avant tout l'unité. On va revoir la même chose dans beaucoup d'épîtres, où l'unité est la première chose que Paul veut encourager. Que un chrétien qui marche dans cet honneur de Dieu, c'est avant tout quelqu'un qui développe une vision juste du peuple de Dieu et qui a une attitude en conséquence. C'est très intéressant de voir cela. Nous le voyons aussi dans Romains, chapitre 12. Juste après avoir dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant », il va parler de l'amour et de prendre sa place dans le corps et de ne pas avoir une attitude orgueilleuse. Le premier réflexe qu'un chrétien doit avoir ici, et dans beaucoup d'autres épîtres, comme je le disais, c'est d'avoir une vision juste du corps de Christ et de l'Église et d'avoir une attitude qui va en conséquence. Et c'est mon deuxième point, soyons artisans de cette unité et de ce plan de Dieu. C'est un élément qui est vraiment interpellant. Et je sais que si l'église de Saint-Maur est une église normale, comme la mienne, il y a des tensions, parfois, entre les membres. Alors, je sais pas si c'est toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. Mais ça arrive, voilà, que bon, je suis pas très content de ce que l'autre a fait, ou encore de comment il a parlé de moi, ou la façon dont il m'a parlé, ou l'attitude, etc. Ou parfois même, c'est des choses qui peuvent rester. Et bon, en tant que pasteur, moi, je suis amené très souvent à ce que des gens se confient de moi, et parfois, c'est des histoires qui remontent, hein. Oui, je me rappelle en 2017, et parfois même en 2013, il m'avait fait ça, ce monsieur, ou cette dame. Ouais. Et donc les choses s'installent dans le cœur du chrétien. Et on n'aime pas trop comment telle personne fait ceci, ou comment telle personne fait cela, ou comment telle personne prie, ou comment telle personne... Bref, les occasions de tension, de division sont nombreuses. Et Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'il nous exhorte, il nous encourage à nous rappeler que il est en train de se créer un peuple. Il est en train de se racheter un peuple. Son peuple. Et l'image que j'aimerais nous donner, c'est si vous avez un parent qu'il a 2 ou 3 enfants, est-ce que vous pensez que le papa ou la maman est content de voir ses enfants être en tension, de ne plus se parler ou de s'éviter? Vous imaginez la douleur du père ou de la mère? Eh ben, j'aimerais vous donner cette image avec Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il est content quand vous parlez mal de votre frère ou de votre sœur? Parce que vous êtes ses enfants. Alors Dieu veut nous encourager à faire attention à cela. Et ici, Paul va nous donner quelques exhortations pour nous aider. Comment faire? Et très souvent, c'est que l'autre nous a agacés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si je n'aime pas l'autre, c'est pas juste parce que j'ai vu et que j'aime pas sa tête, n'est-ce pas? C'est il a fait quelque chose, il a dit quelque chose qui m'a pas plu. qui m'a blessé, qui m'a fait mal. Il a peut-être même péché contre moi, n'est-ce pas? Il y a toujours une petite raison pour avoir de l'animosité envers quelqu'un. Eh bien, comment Paul nous encourage? Voici son exhortation. Il va dire déjà « Marchez avec humilité, douceur, patience en se supportant. » Beau programme, hein? Et là, il y en a qui disent « Ah non, je veux pas entendre jusqu'à la fin. Supportez les uns les autres. N'oubliez pas qui vous êtes. Enfants de Dieu, rachetés, peuple de Dieu. » Et c'est pour ça qu'on va marcher dans ce chemin-là. En toute humilité, une exhortation très importante. Et il est vrai très souvent que les tensions sont dues à une vision méprisante de l'autre. Il n'a pas les mêmes valeurs que moi. Moi, je ne fonctionnerai pas comme ça. Il a fait comme ça, moi, je ne fais pas comme ça. Si j'étais à sa place, non. Comment il a parlé de moi? Pour qui il se prend, lui? Ou encore, moi, j'ai un titre, je suis important, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me donne ma place. L'humilité ne cherche pas son propre intérêt. Paul sera même très très virulent quand il va dire en Philippiens chapitre 2 de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Waouh ! En fait, l'humilité ne se voit pas au-dessus des autres. Elle se voit au même niveau que les autres. Elle se voit au même niveau que quoi? Rappelez-vous Éphésiens 2. Vous vous rappelez comment Paul commence? Vous autrefois, mais nous aussi, n'est-ce pas? Nous, vous autrefois quoi? Vous étiez pécheurs, vous étiez dans les âmes rebelles, mais en fait, nous aussi. Moi aussi, Paul, le grand prédicateur, le grand apôtre, je faisais partie de cette même catégorie de gens. En fait, on était tous à la même enseigne. Pro-vax, anti-vax, tous à la même enseigne. Les gens qui aiment Zemmour, les gens qui aiment Macron, tous à la même enseigne. Hommes, femmes, grands, petits, jeunes, vieux, quelle que soit notre nationalité, nous sommes à la même enseigne. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Vous en êtes convaincus? Nous ne sommes pas supérieurs que les autres. Là, c'est les JO, là, vous savez. Et c'est vrai, moi, dès que j'entends quelqu'un qui dit « Ah, ouais Alors, je sais plus comment il s'appelle, ce médaillé, là, qui vient encore d'avoir une médaille aujourd'hui. Il est français, alors je sais pas du tout, je sais même plus c'est quoi son sport, mais je suis content, je suis fier, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il est français, 4e médaille, ouais, super! Ouais, il y a une certaine identité. Mais au final, on est tous à la même enseigne. Les Français sont pas meilleurs que les Malgaches ou que d'autres nationalités, devant Dieu. Très, très souvent, on veut être fier un peu de notre pays, et c'est normal, et c'est bien. Je pense que c'est bien d'être fier de son pays. Mais pas jusqu'à accepter le péché de notre culture. On peut être fier de là où Dieu nous a placés. On peut être fier mais à partir du moment où on se dit, parce que nous, on est meilleurs que les autres. Alors là, on n'est pas dans le plan biblique. On peut être fier de notre équipe de foot, on peut être fier de notre quartier, on peut être fier de notre famille, on peut être fier de ceci, de cela. Mais au final, toutes et tous, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre famille, notre quartier, notre statut social, nous avons toutes et tous besoin de la grâce de Dieu. Et notre première valeur est avant tout dans notre relation à Dieu. Notre fierté, dira Paul, c'est Jésus-Christ. Humilité. Ne voyons pas les autres au-dessus de nous-mêmes. Et cela nous aidera. Quand bien même il m'a blessé, si. Même celui qui me blesse, il n'est pas au-dessus de moi. Il a autant besoin de la grâce de Dieu que moi. Et très souvent, je vois que c'est ça qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, c'est quand nous sommes blessés. Parce que parfois, on se dit dans notre cœur, j'accepte d'avoir des mauvaises pensées envers cette personne parce qu'il m'a blessé et donc il mérite mes mauvaises pensées. Vous voyez un peu cet état d'esprit? Jésus, il dit non. N'oublions pas qui est Jésus. Jésus, c'est lui qui est doux et humble de cœur. Il a accepté de porter les violences les plus extrêmes contre sa propre personne. Et à la fin, il a dit, maudis-les. Non? Quelqu'un peut me corriger? Sur la croix, il a dit quoi? Pardonne-les. Ils savent pas ce qu'ils font, ils ont besoin de grâce. Ils ont besoin de grâce. Alors, est-ce qu'avec Jésus, on peut dire ensemble, Seigneur, toutes ces personnes qui m'ont blessé, pardonne-leur, ils ont besoin de grâce. Et moi, je ne vais pas garder l'amertume, parce que j'ai eu aussi besoin de grâce. J'ai encore besoin de grâce. Et douceur, là son semeur dira de façon aimable, cette douceur, autant l'humilité, c'est une vision de soi-même vis-à-vis des autres, et l'aimabilité, c'est une action envers l'autre, une volonté de ne pas lui faire du mal, une volonté de respecter qui il est, de prendre en compte ses fragilités, peut-être qu'il ne comprend pas tout de la même façon. Et j'ai beaucoup aimé cette personne qui nous disait, quand on commençait à dire aux gens, mais à critiquer, disant, ouais, mais vraiment, ils comprennent pas, hein. Vraiment, ils comprennent pas. Ils osent encore faire ce genre de choses. On est déjà chrétien, on est déjà engagé. Il disait, mais si vous, vous avez compris ça, c'est bien que vous avez eu la grâce de le comprendre. Vous n'êtes pas né avec cette compréhension. Elle vous est arrivée petit à petit. C'est la grâce de Dieu. Alors, estimez que ces personnes-là aussi ont besoin de faire ce chemin. Je trouvais vraiment ça encourageant et édifiant. D'accueillir l'autre dans sa fragilité, dans ses limites. Et j'encourage vraiment de le faire dans l'Église, évidemment, mais pensons aussi à nos couples. Pensons dans les familles, les foyers. Parce que très souvent, hein, on se connaît dans les foyers, les familles, on voit les qualités et les défauts de l'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, accueillons l'autre avec douceur. Et si vous êtes marié, là, si vous avez votre conjoint à côté, dites, écoute-le bien. Mais dites, c'est pour moi. Avec douceur, avec humilité. L'autre aussi, il a besoin de la grâce de Dieu, comme tu as besoin de la grâce de Dieu. Avec patience. Patience, c'est accepter que l'autre fait des erreurs. Et je suis assez interpellé parfois, et je me dis, vraiment, on a tellement besoin de se rappeler régulièrement de la parole de Dieu, combien parfois on peut être radical avec les gens, même dans notre église, même dans notre famille. Il a fait ça, moi. Il m'a parlé comme ça, plus jamais. Plus jamais je lui adresserai la parole. Un des combats que j'ai dans l'église, c'est les gens qui veulent plus se dire bonjour. Ça existe, hein. Qui s'évitent. Et parfois, ils me sortent ça, mais après 6 ans. Ah oui, hein, il m'a pas dit bonjour, il est passé devant moi. Ah oui, mais soyez patients. Acceptons nos fragilités. Acceptons le fait que parfois, on n'est pas bien luné, on n'est pas en forme, on n'est pas... N'est-ce pas ? Soyons patients. Et enfin, cet appel très important de se supporter les uns les autres. Et quelques textes plus tard, Paul dira, si l'un de vous a raison de se plaindre, supportez-vous les uns les autres. Et il dit bien ce que ça veut dire. Il dit pas juste se supporter parce que on est dans la même communauté et puis on fait des choses ensemble. Mais non, c'est parce que l'autre a vraiment fait quelque chose contre toi. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, supportez-vous les uns les autres dans la charité. Voilà la motivation principale et permanente. Voilà le commandement ultime que Dieu nous donne. Tout ce qu'il est en train de nous dire, finalement, rejoint ce que Jésus a répondu à cet homme de loi. Ok, le plus important commandement. Tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Quand nous répondons à cet appel de la vocation, nous répondons à oui à aimer Dieu de tout notre cœur et oui à aimer Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et tout cela nous permet de conserver l'unité de l'esprit, de conserver cette unité que Dieu est en train de créer dans l'église de Saint-Maur, de conserver cette unité que Dieu a déjà établie. Et c'est bien intéressant, c'est pas créer l'unité, mais c'est conserver l'unité. Ça veut dire qu'elle existe déjà. Travaillez à cela. Soyez des hommes de paix, des enfants de paix et de réconciliation. Parce qu'il est là, elle est là, cette unité. Et pour terminer, on a dit conserver l'unité parce qu'elle est déjà là, c'est parce que c'est Dieu le premier artisan, les amis. juste avant de passer à la suite, je voulais juste préciser aussi que Christ nous encourage à être des artisans de paix. Ça veut dire non seulement que je puisse être quelqu'un qui ne me met pas en tension avec les autres, qui pardonne l'autre, qui l'accueille dans sa fragilité, qui bénit quand bien même il me fait du mal, qui prie pour celui qui n'est pas sympa avec moi. Je veux être celui-là, mais je veux être aussi celui qui va aider mon frère à ne pas développer de pensées d'amertume. Aider ma sœur à pardonner. Parce que parfois, on a besoin d'être encouragé à pardonner. On a besoin que des frères et sœurs nous rappellent le chemin. Aider mon frère et ma sœur à guérir des blessures que les autres leur ont faites. Je veux être aussi cet artisan de paix à encourager celles et ceux qui sont en tension pour apporter la grâce. Ne pas alimenter, n'est-ce pas ? Les proverbes disent que les calomnies sont comme de la friandise. Vous avez remarqué ou pas ? Hey, tu sais encore ce qu'il a fait hier, là ? Ah oui, dis-moi, raconte-moi. Oh non, je veux pas faire partie de ces gens qui calomnient l'autre, qui profitent du péché de l'autre pour le rappeler aux autres. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Vous pensez que c'est ça que Dieu demande ? Alors il nous demande de faire partie de celles et ceux qui construisent l'unité et qui encouragent à ces choses-là. Sois bienveillant. On est à l'écoute de l'autre et on encourage la bienveillance. Les amis, soyons ces artisans de paix et nous serons appelés fils du Très-Haut. Voilà, maintenant on arrive vraiment à cette troisième partie où Dieu est finalement l'artisan de cette unité. Et c'est fort que Paul insiste autant sur cela. Il est l'artisan lui-même de cette unité. On l'avait vu en Éphésiens 2. Dans son corps, il a créé la réconciliation. Il a porté, il a enlevé ce qui divisait l'humanité, ce qui divisait les hommes et les femmes, ce qui divisait les juifs et les non-juifs, ce qui divisait les hommes de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a porté sur lui les conséquences de cette division pour qu'il y ait cette réconciliation. Quand tu penses à ce frère, à cette sœur avec qui Dieu t'encourage à te réconcilier, pense que d'abord Jésus a payé pour cette réconciliation. Il n'y va pas par tes propres forces et dis-toi, Jésus a déjà payé pour que je m'entende bien avec mon frère. Et je peux vous dire que c'est juste merveilleux de voir des chrétiens qui, au départ, sont en très grande tension à cause de paroles qui se sont dites, à cause de phrases qui se sont dites, de mépris, et parfois même j'ai été dans des situations où des mails sont partis, où on se critiquait, où on se disait des choses dures. Et tu te dis, là, on est allé trop loin. Mais quand tu vois que chacun de son côté fait cet effort, mais il y en a toujours un qui doit commencer. Il y en a un qui doit faire le premier pas. Soit celui-là, soit celle-là, mon frère, ma sœur. De dire, écoute, je te demande pardon, j'ai pas bien parlé, là. C'est vrai que je me suis emporté, j'étais fâché. Mais je veux vraiment qu'on puisse avoir cette bonne attitude l'un envers l'autre. Et là, je vous parle de vécu, d'accompagnement, mais même personnellement. Et l'autre qui lit, qui est touché, qui dit, oui, c'est vrai, mais en fait, mais non, c'est moi qui finalement a mal parlé, je te demande pardon. J'étais blessé quand tu avais fait ça et en fait, j'aurais pas dû, j'ai mal compris ce que tu as fait. Et de voir comment Dieu réconcilie et comment Dieu restaure et que maintenant, ces personnes sont des grands partenaires, travaillent vraiment bien ensemble et s'apprécient mutuellement et se soutiennent. Vous dites, waouh, gloire à Dieu. C'est ça, l'Église. C'est pas, puisque tu m'as fait ça, toi, tu vas travailler dans ton coin et moi dans mon coin. Ça peut arriver, mais ça doit pas être la norme. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul Seigneur. Un seul corps, pardon, un seul esprit. Un seul corps, nous sommes tous de l'Église, nous sommes tous de la même famille, toi et moi, même si on a des choses, on ne voit pas de la même façon, on est du même corps. Un seul esprit, nous sommes habités du même esprit. Nous avons reçu le même esprit. Une seule espérance, nous finirons ensemble dans le même lieu. Donc, il vaut mieux s'entendre maintenant, non ? On sera ensemble pour l'éternité, attention. Un seul Seigneur, nous avons choisi, toi et moi. Et ça, les amis, c'est une des clés merveilleuses de la réconciliation, c'est quand on est convaincu que chacun, on a dit oui à Jésus et qu'on veut lui obéir. Et le nombre de fois où j'ai pu me réconcilier avec des personnes parce que je savais qu'elles aussi, elles avaient choisi Jésus comme leur Seigneur. On a dit, mais en fait, toi et moi, on veut la volonté de Dieu, oui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on soit réconciliés ? Oui. Allons-y, n'est-ce pas ? Allons-y. Une seule foi, Éphésiens 2, c'est par la grâce qu'on est sauvés. On a tous la même foi en Jésus-Christ, on est tous passés par le même chemin. Un seul baptême, ce même symbole de notre réconciliation avec Dieu, de la purification de nos péchés, de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et de notre résurrection en Jésus. Ce baptême, on a tous passé par là. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne sont pas encore baptisés, petit encouragement, si Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, c'est merveilleux le baptême. C'est vraiment cette symbolique forte, cette manifestation forte de ce que Dieu a fait dans votre vie. Allez-y, parlez avec le pasteur Philippe. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Nous sommes soumis à lui et nous recevons tout de lui. Parmi tous, quand on se réunit, le peuple de Dieu, Dieu est au milieu de nous. Alors il est toujours là, mais il est particulièrement au milieu de nous. 1 Corinthiens 14 le précise. Et en tous. En fait, Dieu habite dans mon frère, Dieu habite dans ma sœur. Est-ce que je ne vois pas en lui ce que Dieu voit ? Et ça, c'est vraiment un encouragement. Vois la valeur du frère, de la sœur. Et je sais que le fait de voir en l'autre toute la valeur qu'il a m'aidera d'autant plus à chercher, à le bénir, à l'aimer et à avoir une relation avec lui. Parce que Christ vit en lui, parce que Dieu vit en lui. Et il est mon frère, il est ma sœur. Les amis, j'espère que ce passage nous émerveille. Et on dit merci Seigneur, c'est toi qui fais tout ça. Ces passages, Éphésiens. Mais surtout qui nous encourage à dire, Seigneur, je veux, oui, marcher d'une manière digne de l'appel que tu m'as donné et être cet artisan avec toi de l'unité. Être constructeur avec toi de l'unité des chrétiens. Et l'unité veut dire se supporter. Pas juste dire travailler ensemble, c'est possible. Hein. Vous savez que dans le monde, on travaille ensemble, hein. N'est-ce pas ? Se supporter, s'aimer, se bénir, et voir en l'autre ce que Dieu voit. Nous allons encore prier. Seigneur Jésus, merci pour le privilège immense que nous avons de faire partie de la famille de Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous oublions non seulement ce privilège, mais aussi le fait que nos frères et sœurs l'ont, ce même privilège. Merci Jésus d'avoir prié qu'il soit un, comme nous sommes un. Parce que cela veut dire qu'en toi, cette unité est possible. Quelles que soient nos origines, nos tensions, quelle que soit notre situation, tu peux réconcilier, tu peux unir, tu peux faire en sorte que chacune, chacun trouve sa place dans le corps de Christ, que chacune, chacun soit à la bonne place, en harmonie avec les uns et les autres. Merci Jésus pour ce privilège immense. Aide-nous à être ces artisans de paix. Aide-nous à être ces artisans de l'unité que toi tu es déjà en train de construire. Bénis l'église de Saint-Maur, que ce soit une église unie, une église qui grandisse dans l'amour les uns pour les autres, qui grandisse dans sa joie en Christ, qui grandisse dans sa construction du corps de Christ, où Christ est la tête et où chacun prend part à sa place, où chaque articulation a sa place, connectés pour que ta gloire continue à resplendir, pour que les uns et les autres puissent continuer à grandir. Et merci, parce que c'est toi le premier architecte. Gloire te soit rendue, Jésus. Bénis encore cette église qui t'appartient. Fais-lui du bien. En ton nom. Amen.